Chapitre 12. Le visage du chauffeur de sécurité est impassible lorsqu'il jette un coup d'œil dans le rétroviseur pour vérifier que la voiture suiveuse est toujours derrière lui. Le ronflement agréable du moteur traverse la carrosserie de la Volvo, spécialement conçue pour le chef du gouvernement. Depuis un an, la CEPO a choisi de le faire voyager dans un véhicule blindé et renforcé qui pèse près de 4 tonnes, doté d'un moteur 12 cylindres de 453 chevaux. C'est une voiture qui peut monter à plus de 100 km/h en marche arrière et dont les vitres résistent aux balles à grande vitesse. Assis sur la vaste banquette arrière en cuir, le Premier ministre appuie doucement le pouce et l'index de la main gauche contre ses paupières fermées. La veste de son costume bleu marine est ouverte, sa cravate rouge pend de travers sur sa chemise. Saga Bauer est installée à côté de lui, toujours vêtue de sa combinaison de moto. Elle a chaud après cette nuit et cette matinée mouvementée et rêve d'ouvrir la fermeture éclair jusqu'au nombril, mais n'ayant toujours rien en dessous, elle s'abstient. Sur le siège passager avant se trouve le directeur général de la CEPO, Werner Zandien. Il a attrapé le dossier de son siège avec sa main droite pour tourner son long corps vers l'arrière afin de pouvoir regarder le ministre pendant qu'il rend compte de l'intervention rapide du service de la sûreté. De sa voix grave, il reprend la chronologie depuis l'apparition de Saga Bauer sur les lieux et l'établissement des barrages routiers jusqu'à l'examen accéléré de la scène du crime et au rapport des techniciens. La villa a été remise en état. On ne voit plus la moindre trace de ce qui s'y est déroulé cette nuit, termine Werner. Mes pensées vont à sa famille, dit le Premier ministre à voix basse en regardant par la fenêtre la bruine qui commence à tomber. Ils sont tenus à l'écart. Nous maintenons évidemment le plus haut niveau de confidentialité. Selon vous, la situation est critique, poursuit-il tout en répondant à un SMS sur son téléphone. Oui, il y a des circonstances particulières qui nous ont incités à vous contacter immédiatement, répond Werner. Comme vous le savez, je pars à Bruxelles ce soir. En réalité, je n'ai pas de temps à vous consacrer. Saga sent ses fesses en sueur adhérer au cuir de sa combinaison. Nous avons affaire à un assassin professionnel ou semi-professionnel qui ne déviera pas de sa mission, annonce-t-elle, essayant de se décoller du siège. La CEPO croit toujours à de grandes conspirations, dit le Premier ministre avant de revenir à son téléphone. Le criminel a utilisé un pistolet semi-automatique avec un silencieux qui refroidit les gaz de combustion, poursuit-elle. Il a tué le ministre d'une balle dans l'œil droit et il a ramassé la douille. Puis il s'est penché sur le corps déjà mort, a plaqué le canon contre l'œil gauche, a tiré encore une fois, a ramassé la douille, a retourné. Ok, c'est moche. Ce n'est pas le tueur qui a déclenché les alarmes, continue Saga. Et bien qu'elle hurle à en réveiller tout le quartier, bien que la police soit sur le point de débarquer, il a pris le temps d'extraire les balles du plancher et du mur avant de partir. Il savait où se trouvaient les caméras de surveillance, il n'apparaît sur aucune vidéo, et je peux vous garantir que les techniciens ne vont rien trouver qui pourrait nous mener jusqu'à lui. Elle se tait et contemple l'homme qui boit une gorgée d'eau de source norvégienne, pose le lourd verre sur le bois laqué de la tablette et s'essuie la bouche. La voiture file entre les palais du quartier Diplomatstaden et poursuit dans le nord de Djurgården. À gauche s'étendent les grandes pelouses de Gardet. Au XVIIe siècle, ce terrain était un champ d'entraînement militaire, mais aujourd'hui on n'y voit plus que quelques personnes qui courent ou promènent leurs chiens.
« Une exécution, donc ?»
demande le ministre d'une voix rauque. « Nous ne savons pas encore pourquoi, mais on peut imaginer une forme ou une autre de chantage. Supposez que l'assassin essayait d'obtenir des informations confidentielles, explique Werner. Le ministre a peut-être été forcé à faire une déclaration filmée.
C'est plutôt inquiétant.
Oui, nous sommes convaincus qu'il s'agit de terrorisme politique, même si personne n'a encore revendiqué l'assassinat.
Du terrorisme? Il y avait une prostituée chez lui,
glisse Saga.
Il a effectivement quelques problèmes, répond le chef du gouvernement en tirant sur son nez aquilin. « Oui, mais laissez tomber, »
l'interrompt-il. Saga l'observe furtivement. Son regard est absent, sa bouche crispée. Elle se demande s'il est en train d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. Un ministre de son gouvernement vient d'être assassiné. Peut-être pense-t-il en ce moment avec une douloureuse angoisse à la dernière fois qu'un tel événement s'est produit. En 2003, par une morne journée d'automne, Anna Lindh, la ministre des Affaires étrangères de l'époque, faisait du shopping avec une amie lorsqu'un homme l'a attaquée et poignardée au bras, à la poitrine et à l'abdomen. Elle n'avait pas de garde du corps, pas de protection rapprochée. L'étendue de ses blessures était telle qu'elle est décédée sous anesthésie sur la table d'opération, après avoir reçu plus de 80 litres de sang. La Suède était différente à cette époque-là. Un pays où les dirigeants politiques estimaient encore avoir le droit de défendre une conception socialiste d'éthique internationale. En tout cas, poursuit Saga en regardant son interlocuteur dans les yeux, la femme agressée par le ministre des Affaires étrangères a entendu un fragment de conversation qui nous laisse penser que cet assassinat est le premier d'une série. « Une série d'assassinats ? C'est quoi ces conneries ?» s'exclame le premier ministre.